Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher révérend Père, cher Père, cher frère, bien chers confrères, mes bien chers frères, et vous, chers amis, qui, dans un instant, allez devenir prêtres de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. C'est une joie pour nous de nous retrouver ici pour cette cérémonie qui nous prouve que l'Église catholique continue. Vous qui êtes donc parvenu à ce jour, le plus important de votre vie, vous le devez en premier lieu à l'amour et à la miséricorde du Sacré-Cœur, qui a voulu faire de vous ses prêtres. Et vous le devez à vos chers parents, à l'éducation qu'ils vous ont donnée, aux prêtres qui ont fait de vous des chrétiens. Du haut du ciel, le cher abbé Fleury doit être bien heureux de voir son ancien enfant de cœur parvenir à ce qu'il espérait. C'est aussi grâce à la formation et aux prières des bons hommes d'Avrier qu'un nouveau prêtre se joindra à la communauté. Oui, l'Église catholique continue. En effet, cette cérémonie d'ordination est absolument identique à celle qu'on me faisait admirer alors que j'étais enfant à l'école Sainte-Jeanne d'Arc, alors que nous avions un grand pape, Pie XII, fidèle à tous ses prédécesseurs sur le trône de Saint-Pierre. Nous trouvions cela normal, nous étions heureux d'être catholiques. Et nous ne le savions pas. Nous ne savions pas ce qui nous attendait, cette tempête terrible, le Concile Vatican II et tout ce qui s'ensuivit. Les prêtres qui m'expliquaient le catéchisme m'avaient dit « Si tu veux arriver au ciel, ne change pas de religion. » Eh bien, grâce à eux, j'ai gardé la foi des anciens jours, de nos ancêtres, de tous les saints et de tous les papes, depuis 2000 ans. Et tout ce que faisaient ces prêtres, je le fais aujourd'hui, 75 ans après. La soutane, la messe, le bréviaire, le même catéchisme. Mais aujourd'hui, tout cela est interdit. On pourrait croire, à les entendre, que toutes nos grand-mères étaient de dangereuses intégristes, parce que notre religion catholique est exactement celle qu'elle nous avait apprise. Et c'est elle, cette religion catholique, qui nous vaut tous les épithètes et noms d'oiseaux dont on nous affuble. La crise actuelle de l'Église ressemble beaucoup à la contamination universelle de l'hérésie arienne au IVe siècle. Saint Jérôme, docteur de l'Église, déclare « Un beau jour, l'Église entière s'est réveillée arienne. » Dans l'hérésie arienne, avec l'immense majorité des évêques et des prêtres contaminés par l'hérésie. Le pape lui-même, Libère, a excommunié l'évêque Saint-Athanase, qui n'a pas hésité à consacrer des évêques sans l'autorisation du pape, dans les villes dont l'évêque s'était laissé gagner par l'hérésie. De même, l'histoire de l'Église finira par une apostasie universelle annoncée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'a prophétisée en ces termes, « Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi ?» Quelqu'un qui ait conservé la foi sur la terre, c'est-à-dire quelqu'un qui soit resté fidèle à chacune des vérités de l'Évangile. Aujourd'hui, de très nombreux chrétiens ne croient plus en l'enfer, au purgatoire, à la présence réelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie, etc., etc. Ils sont devenus plus ou moins protestants sans s'en rendre compte. Et, par exemple, dans leur façon de communier. Communier, ils communient sans jamais se confesser. Et aujourd'hui, Rome bénit le mariage homosexuel, l'hérésie homosexuelle, selon laquelle l'amour mutuel de ces gens-là vient de Dieu. C'est l'encyclique Amoris Laetitia, la joie de l'amour. et les derniers textes du cardinal préfet de la Congrégation de la foi, qui annonce en même temps, comme on dit aujourd'hui, la soi-disant excommunication des traditionalistes à l'occasion des prochaines consécrations épiscopales. Pour inaugurer la nouvelle grande église œcuménique, c'est-à-dire pour intégrer en une première étape l'église orthodoxe schismatique et l'église anglicane, les autorités romaines ont abandonné le dogme du filioque, du credo, lors de leur visite à l'église orthodoxe au Moyen-Orient. Et elles abandonnent également la corédemption de la très sainte Vierge Marie pour intégrer l'église anglicane. Et c'est pourquoi l'archevêque anglicane, chef de cette église, a été reçu en grande pompe par le pape dans la basilique Saint-Pierre de Rome, où elle a béni des évêques. Ce sont les deux premières étapes dans la création de la grande église universelle, dont la réunion avec toutes les fausses religions à Assise nous a donné un avant-goût. Au nom, soi-disant, de la charité, de l'humilité, de l'unité. On abandonne la doctrine de la foi. Au nom de l'unité du genre humain, chère à la maçonnerie. Au Concile, cependant, un grand nombre d'évêques, environ un quart des évêques, ont défendu la tradition face aux évêques novateurs. En septembre 1964, 510 évêques signèrent la consécration du monde au cœur immaculé de Marie. Et ceux qui demandèrent la condamnation du communisme, qui fut honteusement escamoté, étaient au nombre de 454 évêques. En 1998, Mgr Lasso, qui nous avait rejoints, adressait au pape, comme tout dernièrement l'archevêque Mgr Vigano, qui fut nonce à Washington, une profession solennelle de foi, en ces termes. Le dépôt de la foi vient de Jésus-Christ. Il était complet et définitif à la mort du dernier apôtre. Et saint Paul ordonne à l'évêque Timothée, son disciple, « Ô Timothée, garde, conserve fidèlement le dépôt de la foi. » Un dépôt, c'est ce que l'on vous a confié, et non une doctrine nouvelle que vous auriez récemment découverte dans un concile informel, par exemple. Les vérités que notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église nous ont présentées une fois pour toutes, il n'est jamais permis de s'en écarter, même à un successeur de Pierre, au nom d'une compréhension plus poussée ou de la soi-disant adaptation à la nouvelle situation de la société moderne, de l'homme moderne. Au Concile, ils ont prétendu convertir le monde moderne, le gagner au Christ, en acceptant ses erreurs, en baptisant le progrès, le progressisme, l'évolution, la fausse liberté, etc. Les soi-disant valeurs libérales. Lors des consécrations épiscopales des quatre évêques en 1988, Mgr Lefebvre déclarait « Il me semble entendre, mes bien chers frères, la voix de tous ces papes, depuis Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII, Saint Pie X, Benoît XV, Pie XI jusqu'à Pie XII, nous dire « Mais de grâce, qu'allez-vous faire de nos enseignements ?» De la foi catholique, allez-vous la laisser disparaître de la terre ? De grâce, continuez à garder ce trésor que nous vous avons transmis. N'abandonnez pas les fidèles, n'abandonnez pas l'Église, continuez l'Église. Car depuis le Concile Vatican II, toutes ces erreurs que nous, papes, avions condamnées, voici que les autorités romaines actuelles aujourd'hui les acceptent, les adoptent et les professent. Comment cela est-il possible ? Nous, pape, avions condamné le libéralisme, le communisme, le socialisme, le modernisme, les erreurs du sillon, le faux œcuménisme, la liberté religieuse, la synodalité. Toutes ces erreurs que nous avons condamnées sont, depuis le Concile, professées, adoptées, soutenues par les autorités de l'Église. Est-ce possible ? Si vous ne faites pas quelque chose pour continuer cette tradition de l'Église que nous avions transmise, tout disparaîtra. L'Église disparaîtra. Les âmes seront toutes perdues. Et c'est alors que se vérifiera cette prophétie de notre Seigneur. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, y trouvera-t-il encore la foi ? Ces nouveautés, cet aggiornamento, ce changement qui, depuis le Concile, s'est produit dans la doctrine de toujours, cet œcuménisme et toutes ces erreurs contredisent cette parole de notre Seigneur et bien d'autres. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui n'accepte pas le Fils n'accepte pas non plus le Père. Cet œcuménisme, cette collégialité, cette Église synodale, tout cela est contraire à la foi de l'Église, est en train de détruire l'Église et la foi d'un très grand nombre d'âmes. C'est pourquoi, en consacrant ces quatre évêques, Mgr Lefebvre ne faisait qu'obéir à tous les papes qui ont condamné toutes ces erreurs. Tous ces papes, depuis même avant la Révolution française, sont la voix du bon pasteur, de notre Seigneur. Et les brebis, les fidèles, reconnaissent dans ces papes la voix du bon pasteur, parce qu'elles le connaissent et reconnaissent la voix, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, de tous les successeurs de Pierre qui l'ont transmise de génération en génération pendant 2000 ans. Jusqu'à ce concile informel et atypique. Nous ne pouvons pas obéir à l'autodestruction de l'Église par sa hiérarchie. Selon l'expression de Paul VI lui-même, j'ai personnellement entendu sur la place Saint-Pierre, le 29 juin 1972, le pape Paul VI qui disait « Les fumées de Satan ont pénétré dans l'Église, après le Concile. » Mais ce n'est pas seulement après le Concile, c'est aussi à cause du Concile. Les fumées, les erreurs de Satan qui sont entrées par les fenêtres que le Concile a voulu ouvrir sur le monde pour, soi-disant, un peu d'air frais. Lorsque le pasteur se change en loup, notre Seigneur nous avait prévenu : je vous envoie au milieu des loups. Et il nous avait mis en garde aussi contre les loups couverts d'une peau de brebis, déguisés en brebis, que sont les faux pasteurs, les mauvais pasteurs, infidèles. Quand le pasteur se change en loup, c'est alors, disait Don Guéranger, c'est alors au troupeau, aux fidèles, de se défendre. Tout d'abord, car il est dans le trésor de la révélation des points essentiels dont tout chrétien a la connaissance nécessaire et la garde, la conservation moralement obligatoire, sous peine de perdre la foi et le salut qui en dépend. Monseigneur Gagnon déclarait « Il est faux de dire que l'on doit obéir sans protester » quand c'est la défense de la vérité catholique qui est en cause. Dans les sectes, les gourous veulent que leurs disciples oublient d'abord tout ce qu'ils ont appris depuis leur enfance, toutes leurs certitudes. Ils les veulent disponibles, ouvert, docile, pour leur inculquer d'autres croyances. C'est malheureux, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans les séminaires après le Concile. Les ouvrages écrits par d'anciens séminaristes et de nombreux témoignages en font foi. Oubliez tous vos préjugés, toute la foi qu'on a pu vous enseigner. Nous allons vous enseigner la nouvelle pastorale qui vous permettra de convaincre la jeunesse. Résultat de cette nouvelle pastorale, c'est qu'il n'y a pas plus de 5% des fidèles en France qui vont à la nouvelle messe le dimanche. Et en général, les moins jeunes. 15 ans après le Concile, et sans doute pour adapter les mentalités au Concile ou le Concile aux mentalités, 120 évêques de France publiaient un nouveau catéchisme pour l'instruction religieuse de tous les enfants. Pierre vivante, recueil catholique de documents privilégiés de la foi. Et les parcours catéchétiques, travaux élaborés pendant 2 ans par 120 évêques, signés par chacun d'eux, pour une promulgation officielle, soi-disant approuvée par Rome. Saint Paul écrit aux Galates, « Si un apôtre ou un ange venu du ciel venait vous prêcher un évangile autre que celui que nous vous avons déjà prêché, nous-mêmes, qu'il soit anathème. » Eh bien, c'est ce qu'ont fait les 120 évêques de France. Tel est le bilan de la nouvelle catéchèse en vigueur en France, qui étonne même les protestants. Plus de création, c'est l'évolution. Plus de péché originel, plus d'âme, plus d'ange, plus de diable, plus d'enfer, plus de ciel, plus de certitude, plus de Marie co-rédemptrice conçue sans péché. Plus de crèche, plus de verbe incarné, plus de trinité, plus de rédemption, plus de sacrifice, et surtout pas le sacrifice de la messe, plus d'ascension, plus d'évangile, plus d'église, une, sainte, catholique et apostolique. Mais au contraire, partout, l'évolution, le transformisme des espèces, etc., etc. Évêque, c'est par toi que je meurs, a dit Sainte Jeanne d'Arc à l'évêque Cochon, qui fut recteur de l'Université catholique de Paris et qui présidait les théologiens et d'autres évêques qui excommunièrent Sainte Jeanne d'Arc comme hérétique, schismatique, relapse, etc. Elle fut excommuniée comme Saint Athanase, mais aux yeux de Dieu, certainement pas. Et elle est aujourd'hui canonisée. Quant à saint Athanase, sa statue se trouve dans le chevet de la basilique Saint-Pierre et c'est l'un des 4 docteurs qui soutient le trône papal. Notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité, dit à ses apôtres, « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Le Verbe incarné a été envoyé pour sauver les âmes, en donnant sa vie pour le salut des âmes. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis, et il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce que doit être la vie du prêtre. Se sacrifier, tout sacrifier, et se sacrifier soi-même, en premier lieu, pour sauver les âmes. Le prêtre est au service de l'Église, au service des âmes, mais, bien sûr, en premier lieu, au service de Dieu. Notre Seigneur étant Dieu et l'amour infini, Deus caritas est. Et c'est pourquoi le Verbe incarné, pour nous convaincre de l'amour de Dieu, est apparu sous les traits du Sacré-Cœur, dont nous avons célébré la fête il y a quelques jours. La vie du prêtre, autre Christ, doit donc ressembler à celle du Sacré-Cœur. Le cœur de Jésus, reflet de sa personne, est un cœur transpercé. Il faut le regarder comme débordant d'amour pour les hommes, mais aussi comme cruellement blessée par l'ingratitude des hommes. Accablée d'outrage, et par là digne non seulement de notre amour, mais aussi de notre compassion et de notre désir de réparer, ainsi qu'il nous l'a lui-même déclaré. Notre Seigneur ne souffre pas, ne souffre plus aujourd'hui, mais la croix a une valeur d'éternité. Sur la croix, notre Seigneur offrait son sacrifice pour tous les siècles pour le passé et pour l'avenir. Et il a donc considéré toute l'histoire des hommes. Et aussi, lors de l'agonie au Jardin des Oliviers, il a certainement, évidemment, beaucoup souffert en voyant le péché du monde, tous les péchés du monde. Et donc cela explique la révélation du Sacré-Cœur, apparaît le monial. Son cœur apparaît transpercé, couronné d'épines, lesquelles signifient nos péchés, et surmonté de la croix. Et il dit... Ce qui m'est encore plus sensible, c'est que les cœurs qui me sont consacrés, c'est-à-dire les prêtres, par leur ingratitude, leur irrévérence, leur sacrilège, par leur froideur et le mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour, c'est-à-dire à l'autel, en célébrant la messe, comment ne pas penser à tous les scandales liturgiques qui existent aujourd'hui ? Et aussi aux prédictions, aux avertissements de Notre-Dame de la Salette, qui parle très clairement du clergé et de la décadence de l'Église. Telle est la mission du prêtre, faire connaître et partager l'amour immense du Fils de Dieu qu'il a porté à se livrer pour nous à la mort, à se donner tout à nous dans le très saint sacrement de l'autel. L'Eucharistie est avec la Passion le plus fort témoignage de l'amour du Sacré-Cœur pour nous. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique en lui donnant une nature humaine. Notre Seigneur donne à son prêtre l'exemple d'une parfaite obéissance au commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même pour Dieu. Cette manifestation de l'amour du Sacré-Cœur de notre Seigneur a permis à l'Église de vaincre l'hérésie janséniste qui était très étendue à cette époque. Le rôle du prêtre est donc de faire partager par les fidèles l'amour de Dieu, l'amour du Fils de Dieu. Et le désir d'imiter ses vertus. Le désir le plus ardent de notre Sauveur, dit Léon XIII, c'est de voir grandir chez les fidèles le feu de l'amour de son propre cœur. Allons donc à celui qui ne nous demande comme prix de sa charité que la réciprocité de l'amour. Le prêtre doit faire partager sa foi en l'amour de Dieu. Credidimus caritatis, telle était la devise épiscopale de Mgr Lefebvre, et c'est ce que notre Seigneur nous enseigne sur la croix. Notre Seigneur nous dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Ce sont deux vertus essentielles pour le prêtre et pour son apostolat. Mais notre Seigneur a dit aussi « Je suis la vérité ». Et par conséquent, quel accord entre le Christ, qui est la vérité, et Bélial, le père du mensonge ? En conséquence, ni accord œcuménique, ni pratique, ni doctrinal. Que la très sainte Vierge Marie nous obtienne la grâce de garder la foi et la fidélité. Ainsi soit-il.